Joseph Méry, Les Nuits d'Orient, Le Mirage du lac des Maquidas. Sage brahmane, si vous n'êtes jamais sorti des sentiers brûlés et des roches ardentes, où le soleil trop généreux torréfie les diamants d'hiver à d'albe, vous ne pouvez vous faire une idée des charmes primitifs du lac des Maquidas. C'est un miroir de nacre uni et il est couronné de nocléas, de plantisques, de baobabs, de caquiers, de liquidambars, de palmistes, dont les verdures mêlées sont plus réjouissantes à l'œil que les plus beaux tapis tissus par les brahmanes dans la fraîche vallée des Cachemires. La tribu sauvage qui s'est établie au bord de ce lac depuis les premiers jours du monde offre la plus belle espèce d'hommes et de femmes qui se puisse voir dans les zones ardentes. Les Maquidas ont la couleur de l'ébène, et leur peau est douce comme l'ivoire jeune. Les femmes ont des cheveux superbes comme la race bergalienne, et les traits ont la correction gracieuse des visages de nos plus belles statues de la déesse Lakshmi. Au milieu du lac est une île très vaste, pleine de huttes de joncs, toutes ombragées de beaux arbres. C'est la ville et le royaume des Maquidas. De tous les côtés, ce peuple est défendu par la profondeur des eaux, contre les attaques des bêtes sauves et contre les éléphants des bois de Salkiva. Chaque Maquida est roi à un jour de l'année et gouverne. Les vieillards conseillent le roi et ne gouvernent plus. On les vénère comme des dieux. On leur donne les plus beaux produits de la chasse et de la pêche. Et le soir, on se range en cercle autour d'eux et on écoute leurs sages leçons. Un brahmine que j'ai vu à Solo et qui a beaucoup voyagé sur les terres lointaines a visité la tribu des Maquidas et m'en a parlé ainsi. Ce matin, j'ai assisté sur la facette émeraude du diamant Béhabib, un mariage de Maquidas. Il y avait une jeune fille, belle comme la déesse de la volupté, que nous adorons sous le nom de Sursuti. Ses beaux cheveux, mais toute description, quelque poétique qu'elle puisse être, ne serait jamais parvenue à la faire apparaître aux yeux du brahmane avec tous ses charmes. Seb Singh eut donc recours à son talent de dessinateur et arrivé à ce point de l'histoire qu'il racontait, il déroula une feuille de papier, un palmier desséché, sur laquelle il avait tracé cette ravissante image. Puis, reprenant son récit, 20 jeunes Maquidas se tenaient debout aux deux côtés de la jeune fille et semblaient attendre un ordre. Toute la tribu était assise sur les fougères et les graminées flottantes qui bordent comme une guirlande le lac des Maquidas. Un signal a été donné. Les 20 jeunes prétendants se sont élancés d'un même bond dans le lac et ont nagé pour atteindre la rive opposée. Le premier arrivé a cueilli une fleur de spondéa. Et la tenant élevée au-dessus de l'eau, il est rentré dans l'île et l'a donnée à la jeune fille. Le second exercice consistait à franchir un large torrent qui sort du flanc d'une roche au centre de l'île et que l'oiseau seul semble pouvoir traverser en un élan. Les jeunes Maquidas ont tous essayé d'imiter l'oiseau, mais leurs ailes leur manquaient. Ils tombèrent sans atteindre l'autre bout. Et une grande hilarité générale accueillit les malheureuses tentatives. Le premier vainqueur a écrit une courbe superbe comme une pierre lancée avec une fronde, et tombant sur l'autre rive, il a cueilli une clochette d'or pour les cheveux de la jeune fille. Ce nouveau triomphe a fait conclure un mariage par acclamation. Les vieillards ont réuni les deux époux, et le roi a donné à la mariée une belle parure, toute faite de ces belles émeraudes qu'on trouve en Afrique dans les roches brunes d'Elmina. L'éblouissante irradiation que le soleil versait sur cette scène a produit ensuite un brouillard lumineux qui a voilé le lac des Maquidas comme un rideau de gerbes d'or qui tomberait sur une scène de théâtre. Et insensiblement, ce voile, tissu de rayons d'or, s'est déchiré par éclaircies splendides et a laissé voir un berceau de rosiers de Bengale bordant la rive d'un fleuve saint. Charmante comme l'Ève de l'Indus, ses cheveux noirs flottants aux brises, voilée d'un sari d'étoffe diaphane, une jeune fille bengalie chantait un pantoum avec une voix mélodieuse comme celle de l'oiseau qui annonce le jour sur la cime des palmiers. Cette chanson d'amour disait les tourments de l'attente. Quand les cinq fleuves de Lahore chassent la brune de leur lit, quand le sourire de l'aurore a réveillé nos Bengalis, j'ai quitté ma natte tressée pour les nuits douces du sérail, et le cœur plein d'une pensée, j'ai mis mes trois rangs de corail. J'ai mis le sari qu'on admire aux fêtes où l'on vient me voir. La sultane de Cachemire a pleuré trois jours pour la voir. La fière reine de l'Asie le demandait à son mari. Elle a gardé sa jalousie. Et moi, j'ai gardé mon sari. Car le beau prince de Mysore doit passer ici pour me voir. Je vais l'attendre à l'aurore, et je l'attends encore ce soir. Le diamant Béabim, dans ses caprices d'optique, ne voulut pas me permettre d'en voir davantage sur sa facette émeraude. Je laissai donc la jeune fille bengalie dans son ardente, à l'ombrage de son parasol, soutenu par le plus jeune de ses esclaves, et peu à peu elle se perdit dans les vapeurs confuses. Pareil aux ombres du crépuscule, dans les froides régions du Nord, je vis encore étinceler son collier au dernier moment, sous un rayon, puis la vision s'évanouit. Le beau prince de Mysore ne parut pas sur l'horizon du couchant. Le sage Brahman, Khosrou, écouta ce récit avec un plaisir mêlé de vifs regrets. Le diamant Béabib ne lui appartenait plus, hélas. Un autre jouissait de ce trésor merveilleux. Mais Khosrou trouvait une consolation dans la vue de la pagode voisine, dont le second étage avançait avec une grande rapidité, comme si le divin architecte du palais Madana fasse descendu sur ce chantier terrestre pour s'associer à des confrères mortels. Le jeune prince Zebskin, possesseur du diamant Béabib, était fort instruit, comme nous l'avons dit déjà, et son instruction lui avait admirablement servi dans ses études d'optique universelle, et surtout pour la reproduction graphique des images apparues dans ses facettes de Béabib. Car un simple ignorant aurait été obligé, comme le coq de la fable, de porter Béabib à un lapidaire pour proposer un échange quelconque. Zeb Singh, né dans les régions équinoxiales, savait que le globe n'est favorisé par le soleil que sur certaines zones et qu'en s'aplatissant vers les pôles, il se couvre de glace, de brouillard et de frimas. Les pays septentrionaux étaient donc parfaitement connus du jeune prince et à première vue, il aurait nommé de son vrai nom Arthur Hill, la montagne blafarde qui s'élève en Écosse, derrière Édimbourg. Il paraît que le diamant Béabib aimait les contrastes, comme la nature sa mère, car le lendemain du jour où la rive de l'Indus s'était révélée sur une facette splendide, un ciel sombre, un horizon de neige, un paysage désolé se déroulèrent sur la facette topaze. Zeb Singh trouva ce contraste charmant, et il contempla même avec une volupté d'artiste ces montagnes couvertes de glaçons pyramidaux, comme un épicurien savoure de l'œil les charmes d'un sorbet italien dans les ardeurs dévorantes de l'été. passer des rayons de la cime volcanique de Mariapi de Java au paysage de l'Écosse est une transition délicieuse pour un Indien. Les lèvres altérées du jeune prince s'inclinaient sur l'horizon d'Écosse comme pour se rafraîchir, et elles aspiraient une fraîcheur délicieuse. Voici à ce sujet ce que le jeune prince raconta tout de suite au brahmane, toujours avide des récits merveilleux puisés dans le foyer inépuisable du diamant Béhabib. Kili et Katrina.